Un manque de coordination entre les services de l'État nuit à l'intégration des jeunes personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Ce n'est pas que nous qui le disons, c'est également ce que M. Paul Lannoy, qui est au bout du fil avec nous. Bonjour, M. Paul Lannoy.
Bonjour.
M. Lannoy est commissaire au développement durable au Bureau du vérificateur général du Québec. Et M. Lannoy, la semaine dernière, vous avez, par la voie d'un rapport déposé, fait un constat qui était un peu navrant entre le milieu de la formation de l'éducation pour les jeunes personnes en situation d'handicap et quand il faut aborder le marché du travail. Et vous avez fait des constats qui sont durs, mais bel et bien réels.
Ben écoutez, c'est ce que nous, on a observé, c'est ce qu'on a constaté sur le plancher des vaches, donc sur le marché du travail et en faisant le tour des ministères et de l'organisme que l'on a audité. Donc, c'est le portrait qui est ressorti. Donc, je suis heureux que vous soyez à l'aise avec ce portrait-là.
Bien, disons que une grande partie de notre auditoire sont des personnes qui vivent en situation d'handicap et si vous leur posez la question, je pense que selon leur situation et le vécu, leur expérience, ils pourraient confirmer cet état de fait. Vous avez fait un audit auprès de 3 ministères et d'un organisme.
C'est ça. Donc, nos travaux ont touché le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et des Services sociaux, de même que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et également cet organisme qui s'appelle l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, on a couvert ces quatre, nous, dans notre jargon, on appelle ça des entités, donc ces quatre ministères et organismes, mais on a aussi vu beaucoup de gens sur le terrain. Donc, on est allé parler à des personnes qui sont dans les réseaux, réseau de la santé, services sociaux, réseau de l'éducation, des gens dans des écoles, des gens dans des centres de services scolaires, des employeurs également qui font appel à des personnes handicapées, des entreprises adaptées également. Alors, on a couvert beaucoup de terrain, je vous dirais. On a vu une belle diversité là, d'intervenants et donc nos constats reflètent les points de vue là, de l'ensemble de ces gens-là.
Il y a eu une politique nationale qui a été déposée ou mise de l'avant il y a déjà une douzaine d'années, je pense, en 2008. Mais il semble que chacun y va de son initiative sans qu'il y ait un suivi ou une intégration avec ce que le ministère d'à côté a peut-être entrepris.
Bien, effectivement, il y a eu une stratégie nationale de 2008 à 2018 et il y en a une en cours là, de 2019 à 2024. Pour ce qui est de la stratégie de 2008 à 2018, bien, on se rend compte, en tout cas, qu'une bonne partie des mesures n'ont pas été mises de l'avant. On se rend compte non plus qu'on n'a pas vraiment tiré de leçons. Il y a eu un bilan mi-parcours qui a été fait, mais qui était assez succinct, qui était assez limité. Et il n'y a pas eu de bilan final. Donc, on recommence avec une nouvelle stratégie, mais sans nécessairement bien comprendre ce qu'a donné la stratégie précédente.
Et est-ce que vous avez fait ces constatations-là, mais vous avez également émis des recommandations, d'abord au point de vue de la disparité. Est-ce qu'il y a des régions où il semble y avoir des trous qui sont plus béants que d'autres?
Bien, écoutez, on a trouvé beaucoup de disparités sur différents sujets. Alors, entre autres, il y a deux mesures spécifiques qui sont déployées par le ministère du Travail, ce qu'on appelle les contrats d'intégration au travail et les programmes de subvention pour les entreprises adaptées. Et ça, notre rapport le montre clairement. Il y a une grande diversité à travers le Québec. Là-dessus, il y a des endroits qui ont 5 fois plus de déploiement de ces mesures-là que d'autres. Alors, ça pose des questions. Donc, ça reflète encore une fois le manque de coordination entre les différents ministères et organismes qui sont impliqués. Si quelqu'un avait vraiment un regard d'ensemble sur la situation, il y a fort à parier là, qu'il y aurait moins de disparités. On a constaté également des disparités au niveau d'une démarche qu'on trouve intéressante qui s'appelle la démarche TEVA, transition de l'école vers la vie active. Là également, on a vu qu'il y avait beaucoup de variabilité d'une région à l'autre, même d'une école à l'autre à l'intérieur d'un même centre de service scolaire, des centres de service scolaire qui sont les nouveaux noms là, des commissions scolaires. Même chose au niveau de la sensibilisation auprès des employeurs. Là également, on a vu une assez grande disparité là, d'une région à l'autre.
Parmi les suggestions, enfin, à la fois un constat et une suggestion qui en découle naturellement, vous parlez du manque de leadership, du manque, vous parliez de la nécessité d'avoir un regard de haut et d'assembler toutes les pièces du puzzle de manière cohérente. De quel ministère devrait relever cette cohérence? Qui devrait être le maître d'œuvre ou la cheville au centre, la pierre d'angle de tout ça? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les services sociaux? Est-ce que c'est l'emploi, la solidarité? Qui doit mener le bateau? Est-ce que c'est l'OPHQ?
Bien, écoutez, ça, c'est une bonne question que le gouvernement devra se poser. C'est pas notre rôle, c'est pas notre prérogative de définir la structure de gouvernance. Nous, on constate que la structure de gouvernance actuelle est déficiente, donc elle comporte des lacunes. Au niveau de la coordination puis du leadership, ce qu'on voit là, quand on lit les textes de loi, quand on lit à propos des responsabilités de chacun, on voit que le ministère du Travail a une responsabilité quant à la coordination de la stratégie. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ben la stratégie, pour l'instant, en tout cas, elle a plusieurs déficiences. On a, par exemple, comme je le mentionnais, on n'a pas vraiment tiré de leçon là, de la stratégie précédente. Et au niveau de la prestation des différents services, c'est l'Office des personnes handicapées du Québec qui, en principe, en tout cas sur papier, a la responsabilité de la coordination. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que cet office-là joue plutôt un rôle de conseiller. Et donc, c'est un organisme qui n'a pas nécessairement, entre autres, la capacité là, d'exiger que ces recommandations soient mises en application. Alors donc, ça va être aux différents organismes là, d'établir qui devrait être le leader. Et je prendrais la peine, si vous me permettez, de préciser que quand nous, on fait des recommandations, donc ça ne reste pas lettre morte. Les entités qu'on a auditées, donc les ministères et l'Office des personnes handicapées, doivent nous produire un plan d'action qui montre comment ils comptent répondre à nos recommandations. Nous, on va examiner la qualité de ce plan d'action-là. Donc, on va se prononcer sur la qualité du plan d'action. Et ensuite, on va suivre la mise en œuvre de ce plan d'action-là une fois par année pendant 3 ans. Donc, il y a vraiment un suivi qui va être fait pour s'assurer que les lacunes qu'on a décelées seront corrigées.
Et s'il n'y a pas de correction, est-ce que vous émettez un autre rapport ou vous avez une instance supérieure auprès de laquelle vous pouvez déposer un blâme?
Bien, écoutez, nous, on tient la commission de l'administration publique au courant de nos travaux. Donc, la commission de l'administration publique, vous le savez peut-être, là, c'est un sous-groupe, c'est une commission parlementaire, c'est un sous-groupe de députés qui se penche sur la qualité de la gestion du secteur public. Donc, à chaque fois qu'on a des rapports, c'est à eux qu'on va les présenter et c'est à eux, entre autres, qu'on va faire l'appréciation du plan d'action. Alors, donc, si jamais ils sont préoccupés, si on est préoccupé, on peut donc le faire valoir à cette commission-là et éventuellement, eux aussi peuvent faire pression. Et ça nous arrive occasionnellement de revisiter un sujet si on pense que ça n'a pas été bien suivi, si on pense que les recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Je vous donne un exemple. En juin dernier, j'ai déposé un rapport sur la conservation des ressources en eau du Québec. Donc, un rapport qui examinait tout ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir de l'eau en bonne quantité, en bonne qualité. Et essentiellement, on a constaté que beaucoup d'éléments qu'on avait vus en 2013 n'avaient pas été corrigés.
D'accord.
Alors, donc, ça nous a mis la puce à l'oreille. C'est pour ça qu'on a fait un nouvel audit sur ce sujet-là.
Et...
Alors, ici, ça restera à voir.
Parce que, éventuellement, comme vous dites, ça remonte à une instance politique, parce que tout ça va dépendre d'une volonté politique d'agir pour faire pression sur les différents cadres de la fonction publique, pour cadre dans un sens organisationnel, pas personnel, pour faire pression et voir à ce que les bonnes intentions qui ont été émises avec sans doute un peu de fanfare se traduisent par une réalité qui soit peut-être plus normale et conviviale pour les principaux intervenants. Ben, Monsieur Paul Lannoy, je vous remercie beaucoup de votre transparence et de votre objectivité. Monsieur Paul Lannoy est commissaire au développement durable au bureau du vérificateur général du Québec et venait de tout récemment déposer un rapport qui condamnait le manque d'intégration de leadership et finalement l'inefficacité des mesures pour l'intégration dans le milieu du travail des jeunes personnes en situation de handicap. Merci.
Merci de m'avoir accueilli.
Ça fait plaisir.